parlons de la nuit. Chaque jour revient la nuit. La plus courte cette année sera le 21 juin au solstice d'été et la plus longue le 20 décembre pour le solstice d'hiver. Elle rythme nos vies, elle est le sujet de nos peurs et de nos fantasmes, elle est vitale à nos cycles de repos circadiens. Elle porte conseil selon de vieux proverbes et la nuit tous les chats sont gris. Michel, vous le savez. La nuit, la guerre s'arrêtait autrefois et maintenant c'est la nuit qu'on effectue comme en Libye les bombardements les plus démoralisants. Alors Michel, la nuit, c'est l'impuissance ?
Oui, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Aussi bien la religion de Saint-Jean que je viens de citer que la philosophie des Lumières pensaient, croyaient qu'il fallait combattre les ténèbres, que les ténèbres étaient actives et qu'elles allaient l'emporter sur la lumière, ce qui est un paradoxe extraordinaire. C'est le premier paradoxe que je vais analyser, car regardez de tous vos yeux, n'importe quelle lueur, la plus tremblotante des bougies, efface l'ombre, efface l'obscurité de la nuit, alors que l'obscurité n'a jamais, que je sache, vaincu la lumière. Premier paradoxe, qui est presque l'image philosophique de la connaissance. Deuxième paradoxe, il est très connu des astronomes, c'est le paradoxe dit d'Olbers, astronome du 19e siècle, mais il avait été déjà repéré par beaucoup d'astronomes au 16e et au 17e siècle, qui démontre que si le regard doit intercepter dans n'importe quelle direction une étoile, alors la voûte céleste serait beaucoup plus brillante la nuit que le jour, et que par conséquent, on devrait avoir une luminosité 10 fois plus importante la nuit que le jour. Et ce paradoxe a été longtemps impossible à résoudre. Seule l'expansion de l'univers a permis de le résoudre. Ça a été vraiment une dispute importante parmi les astronomes. Voilà les deux paradoxes, à la fois d'imagés et scientifiques. Il y en a un troisième que j'aimerais bien regarder de près, c'est que nous avons perdu la nuit. Si vous regardez, oui, par exemple, les photographies de notre planète la nuit, vous verrez que la lumière sature complètement nos régions occidentales, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, etc.
Là où il y a de la vie,
il y a des villes, etc. Mais pas seulement, puisque, disons, une corne va d'Oxford jusqu'à Turin en passant par la Ruhr et la Suisse. Et par conséquent, là, on voit très bien une des taches de lumière gigantesques.
La pollution lumineuse.
Et d'ailleurs, vous-même qui habitez les villes, vous verrez bien à quel point vous ne pouvez pas échapper à la lumière et qu'il est difficile de trouver la nuit, sauf si vous allez dans le désert, dans l'Himalaya ou au sommet des Alpes.
Même en Périgord, donc, on a encore un peu de nuit.
Perdu la nuit, un peu comme on a perdu le silence. La lueur obligatoire est presque le parallèle de la rumeur obligatoire, alors que je supplie les auditeurs de protéger le silence et la nuit. La nuit, aujourd'hui, doit être protégée, contrairement à ce que dit la philosophie des Lumières, et j'y reviens. Et voilà le paradoxe qui me paraît le plus important de tous les quatre que je viens d'énoncer, c'est que le modèle de la connaissance depuis toujours a été pour les philosophes la lumière. Philosophie des Lumières,
ou le soleil,
c'est-à-dire l'éclat qui ruisselle sur la vérité. Eh bien, si c'est le jour le modèle de la connaissance, de la science et même de la conscience, alors il n'y aurait qu'une vérité, une vérité unique. Alors elle serait totalitaire et d'une certaine manière cruelle et tyrannique. En fait, la science, le savoir, ressemble beaucoup plus à la nuit qu'au jour. Pourquoi ? Parce que le savoir est constellé de repères différents, à gauche, à droite, en haut, etc. D'ailleurs, superbes des inventions et des intuitions remarquables et qui se détachent sur la nuit du non-savoir et des choses encore à comprendre. Et par conséquent, le paradoxe voudrait que le modèle de la science, de la conscience et du savoir serait plutôt la nuit que le jour, et c'est ça que je défendrai désormais. Voilà les quatre paradoxes qu'il faut connaître du point de vue de la nuit, et finir sans doute par la beauté de la nuit. Il n'y a rien de plus beau que les constellations Orion,
le Capricorne, la Cassiopée,
et
la
puis les supergéantes rouges comme Bételgeuse, bleues comme Rigel, Vega au zénith du ciel d'été, Sirius du grand chien, etc. Et là, sur ce point-là, sur cette beauté-là, et surtout Antarès, qui est la tête de Méduse, c'est-à-dire qui scintille de mille et une couleurs comme un diamant, et là, je viens de dire des noms. Et des noms grecs, vous l'avez remarqué, comme Antarctique, c'est-à-dire de l'autre côté de l'ours, ou Arctique, l'ours, ou Arcturus, la queue de l'ours. Voilà des mots grecs. Et puis, des mots latins, septentrion, c'est-à-dire 7, c'est-à-dire égal 4 et 3. Vous n'avez qu'à compter le nombre des étoiles qui sont visibles à la Grande Ourse, par exemple.
7 étoiles.
Vous allez voir. Et puis, des noms arabes, comme Rigel et Bételgeuse, qui veut dire l'épaule et le pied en arabe. Et cette prolifération de noms français, latin, grec, arabe, etc., vient d'une vieille tradition que les astronomes, disons entre le Moyen-Âge et l'âge classique, ont travaillé ensemble, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées, et ils ont travaillé ensemble en donnant des noms, comme ça, aux étoiles de différentes langues et de différentes cultures et de différentes religions. Et du coup, il y a dans le ciel, dans la nomination des étoiles et des constellations du ciel, la paix des civilisations, la paix des cultures,
la diversité.
Paix des langues, la diversité. Et de la même façon que tout à l'heure, je disais que le meilleur modèle du savoir par la diversité des repères, par la diversité des intuitions et des découvertes était plutôt la nuit que le jour, alors là, le modèle presque politique, linguistique et culturel de la paix est remarquable la nuit, alors que le jour, on ne voit que cette vérité unique qui peut être cruelle et totalitaire.
Alors finalement, c'est votre cinquième paradoxe, la paix contre la peur.
C'est la paix contre la guerre, si vous voulez. Mais là, il y a dans la nuit une sérénité que n'importe quel voyageur du désert, n'importe quel alpiniste de l'Himalaya ou des Andes a ressenti lorsqu'il a cru à un certain moment que les étoiles étaient si proches qu'il pourrait les toucher de la main. La nuit est plus belle que le jour.